côté mur, un côté asphalte, un côté ciel. C'est ma route. Je descends vers elle. Je trace ma route. Nos chemins se croisent. Je décharge sur la chaussée une foule qui s'écoule le long des caniveaux. J'échange des trottoirs. Je change de regard. Ils sont là, dans le salon du monde. Ils sont en ville. Et nous?
Actulutte du collectif Poil à gratter. On est sur Radio Campus 102.4 et nous sommes aujourd'hui en studio Anna, Ben, Loïc et Clem. Et nous vous proposons comme thème aujourd'hui la rue. On prendra ensemble une heure pour découvrir son matériau, le macadam, son partage entre cyclistes, piétons et voitures, la rue comme haut lieu de revendication, comme terrain de jeu politique. Et l'on terminera notre belle balade par une immersion contemplative dans le quartier battant de Besançon.
Radio FM, Radio Skyrock, voilà. Radio
Skyrock. Non, pas Skyrock.
Attends, direct là.
Vous pouvez me redire ce que vous m'avez dit?
On est en train de faire la première couche d'enrobée. Là. C'est là, une couche de grave. Après, on met une couche de liaison et on finit par un tapis mince. Voilà. C'est parce qu'il y a les bus qui vont passer là, et c'est pour que ça tienne comme il faut. Quand il y a beaucoup de poids lourds, on met une couche de grave puis une couche de tapis. Puis quand il n'y a que des voitures, on peut mettre qu'une couche de tapis. Ça dépend.
Ça, c'est de la grave, ça, c'est la première couche.
C'est quoi la composition?
Hein?
La composition, c'est quoi?
Ah, là, il faut parler avec les gens qui amènent la robée. Parce qu'eux, ils vont à la centrale, ils connaissent tout.
Je chauffe les pieds, moi aussi.
C'est chaud, c'est du 140, 160 degrés là-bas.
Ouais, ça va se coincer un petit peu dedans. Hein. Putain, allez, on en prend pas les cœurs.
C'est quoi ça?
C'est du dégoût de Renan, pour pas que ça colle.
Je peux monter avec vous?
Salut.
Vous vous appelez comment?
Régis.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites?
J'amène l'enrobé pour vider dans le finisseur.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer en des termes plus compréhensibles?
À l'intérieur de la benne, derrière, il y a de l'enrobé, hein, ce qu'on appelle le macadam. Et puis je lève, je peine directement dedans. Moi, je garde le pied sur le frein, puis lui, il va me pousser, ça va sur un tapis. Le tapis pousse contre des vis, les vis s'emmènent derrière, et puis il y a une table qui tape, puis il avance tout doucement, puis moi, je continue à vider.
Et c'est composé de quoi, vous savez, le macadam?
Alors, c'est du bitume, c'est de l'émulsion, c'est du pétrole, du caillou, du sable. Voilà.
Oh, donne bien!
Ça va bien là, oui, ça rentre, j'ai dit de regarder, ça a l'air de passer.
Pourquoi il klaxonnait?
Il klaxonne parce que j'étais pas assez élevé, ça coulait pas. Elle est toute neuve, alors c'est la peinture qui freine. Voilà, alors, le but du jeu, c'est qu'on a la gommette derrière, Et puis nous, il faut qu'on reste dedans quoi, pour ne pas être coincé. Sans faire traîner les roues, bien sûr, parce que ça fait un trou. Et puis si ça fait un trou, ben, ils le ressentent derrière et puis ben, le boulot est foutu. Quoi. Donc faire gaffe à ne pas trop freiner pour ne pas faire traîner les roues, puis rester bien dans l'axe de la gamelle. C'est tout. Et puis quand il a plus de. Quand ça coule plus, ben, il me fait monter tout doucement. C'est pour ça, c'est quand il klaxonne, je lève tout doucement, et puis une fois que c'est vite, ben, c'est le collègue qui prend la place. Parce que là, il y a une première couche, ce qu'on appelle la grave. Donc c'est la couche de dur sur le tout venant.
Qui est composée de
ben, c'est les plus gros cailloux. Après la couche finale, il y a plus de fin. Qui viendra ce qu'on appelle nous le fil d'eau. On ne les voit pas sur ceux-là. Mais c'est à la hauteur, en fait, il va arriver à la hauteur des grilles, là, hein, pour que l'eau arrive dedans. Là, on voit qu'on est plus bas. Donc la dernière couche, les 2-3 cm qui manquent, ils vont le remettre dessus pour tout finir.
BBC, je trouve pas que c'est une bonne benne, tu vois. Par rapport à l'opérateur, elle est décalée.
Ah, là, il charrie parce que c'est une benne neuve, elle n'a jamais fait d'enrobée. Il est à fond.
Pas à droite par rapport au directeur.
Ah, mais c'est toi qui as une mauvaise vue. Ça fait 20 ans que je suis chez Perez. Je fais de l'enrobé, je fais de la Suisse, des fois de la bâchée, des fois je fais un peu de tout.
C'est quoi de la bâchée?
Les totlinaires qu'on voit sur la route, là, les semi-bâchés, pour aller un peu plus loin, quoi, faire du régional ou du national. Mais en général, l'enrobé, on fait le Jura, le Doubs, la Haute-Saône. C'est tout, on reste dans le coin.
Et là, c'est du macadam qui vient d'où?
Celui-là, il vient de Champs-d'Autre, à côté d'Auxonne. Ben, nous, on leur ramène, on fait ce qu'on dit l'approvisionnement, on leur ramène le sable, le caillou. Il y a des citernes qui amènent le bitume, donc ce qui fait le noir. Eux là-bas ils malaxent et puis nous on charge. Et je mets en place.
Un macadam réussi, il ressemble à quoi?
Il ressemble à un billard. Normalement on doit pouvoir aller dessus, pas de bosse, pas de trou, rien du tout. C'est du nickel, un billard. T'as les trous, on dit qu'il y a des flashs, c'est qu'il y a eu des erreurs de fait. Ou mal cylindré, ou...
C'est fini là? Vous avez fini de tout décharger?
Ouais, oh, faut pas longtemps, ils en mettent là.
Est-ce que vous aviez combien en volume?
Là, il y avait 31 tonnes. Ah, ça fait déjà quelques brouettes. Hein.
Ça fait quelques mètres en fait.
Ouais, je sais pas ce qu'ils font. Ouais, on n'a pas fait grand chose. Hein. La première couche, il y a toujours beaucoup. La deuxième couche, comme il y a 2-3 cm, ça, on fait plus loin. Quoi. Parce que c'est ça qui va faire tout que la route sera costaud ou pas. Quoi.
Ouais, Denis, les essieux arrière et relevé, baisse ton essieu, qui avance un petit peu, s'il te plaît. Tu fais pas le malin avec ta copine, là.
T'as vu l'ange qu'il a, toi?
C'est
plus reculé, c'est plus avancé, c'est plus rapide.
Oh la raquette!
Oh pardon. 5h moins le quart, tu vas arriver à Danemarie, va être quoi? Ça, c'est des bandits.
5h30? Des
baudriers orange comme ça, c'est les bandits, c'est les chefs, ça.
Allez, je paye 4h30 et je
voilà,
suis gentil.
Voilà. Il était dans la misère, il m'appelle à 13h pour venir lui faire un tour. Voilà. Il n'est même pas plus 13h.
Merci beaucoup.
De rien, c'est Louis.
Dans cette rue, il y avait des Espagnols qui n'osaient pas montrer qu'ils étaient de vieux réfugiés. Dans cette rue, il y avait des Français qui n'avaient pas de chance. Ils ont écrit « Vive la France » au fronton de leur maison. Dans cette rue, il y avait des Portugais fiers comme les geôliers de la misère, quelques arbres fruitiers et la pudeur de la terre. C'était
ma rue, ma famille et les mamans du Ségotier. C'était pas jouer aux billes, c'était ma rue. C'était pas manier, non, c'était pas les Antilles. Le marteau ou la faucille, c'était ma rue. Les glaces à la vanille et les petites qui frétillaient, qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma rue. Bonjour les anguilles et les condés qui nous quadrillaient. Moi c'était pas ma bastille, c'était ma rue.
Dans
cette rue, il y avait l'Afrique et son mea culpa d'avoir un autre dieu, je crois. Ils ont trouvé des cons et des croix. Dans cette rue, il y avait tous les ouvriers de la terre. Ils ont construit des pétataires à terre qui n'habiteront jamais. Dans cette rue, il y avait des caravanes comme des chariots de la colère. On va peur de l'hiver, de la fureur de la terre. C'était ma rue, ma famille, les mamans du Ségosille. C'était pas jouer aux billes, c'était ma rue. C'était pas vanille, non, c'était pas les ondilles, le marteau ou la faucille, c'était ma rue. Les glaces à la vanille, les petites filles qui frétillaient, qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma rue. Bonjour les anguilles, les condés qui nous cadrillaient. Moi c'était pas ma Bastille, c'était ma rue. Dans cette rue, je crois, les enfants n'étaient pas de glace. Quand passait le camion de glace, on tirait des langues étrangères. On était dans les bois, on avait des arcs et des flèches. Quand d'autres avaient des cannes à pêche, mais l'école elle en veut pas. Un jour on s'est fâché, on a tout brûlé, on n'a pas eu peur de l'enfer. Quand on s'est réveillé, derrière des barreaux en fer. Marie, ma famille et les mamans qui s'égosillaient. C'était pas jouer aux billes, c'était ma rue. C'était pas manier, non, c'était pas les Antilles. Le marteau ou la faucille, c'était ma rue. Les glaces à la vanille, les petites qui frétillaient, qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma rue. Bonjour les anguilles, les condés qui nous cadrillaient. Moi c'était pas ma Bastille, c'était ma rue.
L'AVB, c'est une association qui a bien 20 ans maintenant, qui a été créée dans les années 90 pour défendre l'intérêt des cyclistes à Besançon, dans le but de promouvoir la pratique du vélo, qu'il y a un peu moins de voitures dans les rues et un peu plus de vélos. Ça a toujours été l'objet de l'association. Moi, je suis adhérente à l'AVB depuis un an et demi, donc je ne connais pas trop l'historique de tout ce qui s'est passé les années avant, mais je sais que, voilà, de ce que j'ai entendu dire, il y a eu beaucoup de travail de fait en concertation avec la ville, des manifestations pour défendre la parole des cyclistes, et qu'il y a beaucoup de pistes cyclables à Besançon pour lesquelles l'AVB n'y est pas pour rien. Enfin, si l'AVB n'avait pas été là, elles auraient sans doute jamais été faites. Et donc actuellement, on est 5 bénévoles très actifs, et puis tout un groupe d'adhérents, on est à une centaine d'adhérents à peu près.
Ouais.
Donc aussi on cherche des adhérents, si je peux en profiter pour lancer un message. Si vous êtes cycliste et que vous en avez marre qu'il n'y ait pas de piste cyclable, adhérez à l'AVB, parce que plus on a d'adhérents, plus on a de poids aussi pour porter nos idées. Hein, parce que si on est... les trois toujours les mêmes à parler, mais on est moins crédible que si on vient, on se pose dans la table et on dit que voilà, on a des dizaines de personnes qui nous suivent derrière, on a tout de suite plus de poids.
Quelles sont les institutions avec lesquelles vous travaillez ?
La ville de Besançon, en fait, on les rencontre au moins une fois par an.
Ouais.
Au début de l'année, en général, en fait, ils nous présentent le programme des travaux qu'ils ont prévu de faire au cours de l'année. Donc, on rencontre Marie Zéaf, qui est élue à la voirie, et on rencontre Anthony Poulain, qui est élu au mode doux. Et puis les techniciens du service de la voirie, ils nous disent, voilà, cette année, on va refaire, par exemple, on va refaire l'enrobé de la rue de Vesoul, on va en profiter pour faire une piste cyclable, là, on va refaire l'enrobé, on ne fera pas de piste cyclable, ils nous expliquent pourquoi, voilà. Mais quand il y a des rues sur lesquelles nous, on n'est pas d'accord, comme par exemple la rue des Jardins, où le bitume a été refait et il n'y a pas eu de piste cyclable qui ont été faites, bah là, on est allé en justice.
Ok.
Voilà.
Oui. Alors comment le prend la ville dans ces cas-là ?
Ils n'ont pas trop le choix, quoi. On a,
Ils ont pris une avocate et puis c'est nos deux avocates qui ont communiqué en s'envoyant des mémoires de manière interposée. En fait, ils l'ont pris d'une manière qu'on a l'impression qu'ils ont évité de débattre sur le fond, en fait. Mmh. Ils ont essayé de s'attacher à... Voilà, je connais pas trop les termes juridiques, je sais pas c'est comme ça qu'on dit, mais des vices de procédure, enfin ouais, dans la forme, pour que notre plainte elle soit rejetée, et ils ont gagné, du coup notre plainte a été rejetée pour des histoires de compte rendu de CA mal rédigé ou de choses comme ça. Donc à aucun moment le fond a été débattu et on déplore un peu. Donc on ne sait pas si on va faire appel ou pas. Pour l'instant, on est en train d'en discuter. Il n'y a rien de décidé.
D'accord. Donc en fait, vous vous appuyez sur des textes, des règlements, des lois.
Ouais. On s'appuie sur des lois, parce qu'en plus, la loi de notre côté, ça fait depuis les années 90 qu'en fait, quand une commune ou un département, hein, peu importe, refait la voirie, ils sont obligés de proposer en fait un aménagement pour les cyclistes. Hors voirie, pour les voies rapides, mais par exemple les deux fois deux voies, donc là c'est pas le cas, mais toutes les autres types de routes sont obligées de prévoir un aménagement, ou s'ils le font pas, de justifier pourquoi ils l'ont pas fait. Après, l'aménagement, ça peut avoir plusieurs formes. Ça peut être par exemple en centre-ville une zone 30, donc là il n'y a pas de piste cyclable, mais normalement voilà, on estime les voitures roulent à 30 km/h, c'est pas dangereux pour les cyclistes, mais malheureusement c'est pas souvent respecté. Mais ou les zones de rencontre, là il n'y a carrément pas de trottoir, hein, tous les usagers de la route, que ce soit les piétons, les cyclistes, les rollers, les automobilistes, sont sur un pied d'égalité. Ou alors une piste cyclable, ou alors juste un marquage au sol. Après, ils vont en fonction de ce qu'ils peuvent faire.
Et justement, comment les piétons, les automobilistes et les cyclistes partagent la rue? Comment ça se passe?
Ce qui est malheureux, c'est que nous, on voudrait surtout pas que les cyclistes viennent faire de la concurrence aux piétons. C'est pas du tout l'idée. D'ailleurs, dans l'objet de l'association, on dit qu'on défend les cyclistes et les piétons aussi. Après, culturellement, on pense tout de suite aux piétons en général en France. Il y a des trottoirs presque dans toutes les rues, voilà. Alors qu'il n'y a pas des pistes cyclables partout. Donc c'est le vélo qui, va dire, nous occupe le plus. Mais notre objectif, c'est pas du tout de se faire concurrence, parce que des fois, surtout dans une ville comme Besançon, où les rues sont étroites, hein, une ville comme Strasbourg, ils ont plein de pistes cyclables, mais c'est plus facile aussi parce que c'est plat, et du coup, c'est des grandes avenues. C'est facile de faire une piste cyclable, un trottoir, une voie pour les bus, une voie pour les trams, une voie pour les voitures. À Besançon, on peut pas. Souvent, on peut pas. Donc, on va nous dire, par exemple, à la rue de Vesoul, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont fait une piste cyclable dans le sens montant. C'est tout récent. Et nous, ça fait longtemps qu'on la demande, sauf que la mairie disait que c'est pas possible, parce qu'en fait, il y a des îlots piétons pour traverser au milieu de la rue. Ça prend de la place sur la voirie, donc il n'y a pas la place de faire une piste cyclable, et on ne va pas privilégier les cyclistes plutôt que les piétons, etc. Et finalement, en plus, à notre étonnement, parce qu'on avait un peu, on parlait plus trop de cette rue-là, et la dernière réunion, ils nous ont dit tout fièrement, on va faire une piste cyclable rue de Zoul, donc on était contents, on était super contents. Et ils ont décidé de supprimer les îlots piétons. On ne sait pas pourquoi, d'un coup, ils ont décidé de faire une piste cyclable. On s'en réjouit, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai un ami qui me disait « Oh, ça se trouve, c'est parce que les voitures, elles en ont marre d'être bloquées derrière les cyclistes qui n'avancent pas en montée. » Et quand j'ai entendu ça, je ne sais pas du tout si c'est ça, mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Ah, moi qui croyais que c'était pour les cyclistes, non, en fait, encore une fois, c'est pour les automobilistes, on n'en sait rien. » Mais après, nous, ce qu'on essaye d'expliquer aussi, c'est que c'est pas, l'idée, c'est pas de sécuriser pour que les piétons puissent traverser en deux fois, et comme ça permettre aux automobilistes de monter à fond à 70 km/h en se disant « j'ai pas à me soucier des piétons, ils peuvent se réfugier au milieu ». Non, l'idée, c'est que les piétons, ils puissent traverser en une fois sans avoir peur, parce que les voitures respectent la limitation. Donc pour nous, une rue apaisée, c'est une rue où il y a moins de voitures qui vont moins vite, et c'est pas en mettant des îlots piétons comme ça qu'on va inciter les automobilistes à faire attention aux piétons. Donc c'est sûr, c'est un travail de plus long terme, parce qu'il faut aussi changer les mentalités des automobilistes. Mais après, on n'y arrivera jamais. Enfin, si on continue à faire des souterrains pour pouvoir faire passer les piétons, les cyclistes en dessous, et faire des grandes deux fois deux voies qui traversent la ville, ben c'est pas comme ça que ça va évoluer. Notre objectif aussi, c'est qu'à long terme, les mentalités évoluent, qu'on prenne plus sa voiture pour faire 3 km, parce que c'est le cas, hein, les études de déplacement, elles montrent qu'en ville, la plupart des déplacements, c'est pour des toutes petites distances, hein, c'est des 3-4 km qu'on pourrait très bien faire en vélo, et en plus on irait plus vite en laissant en vélo, surtout aux heures de pointe.
Ces études, elles sont visibles où?
Faudra aller voir sur le site de la FUB, la Fédération Nationale, peut-être qu'il les relaie. Mais c'est facile à trouver, hein, c'est des études qui sont connues, hein, comme les études qui mettent en évidence que plus on crée de routes, plus on crée de parking, plus il y a de voitures, plus il y a de bouchons, donc plus on a envie de créer des routes, et c'est un cercle vicieux. C'est, voilà, c'est des choses qu'on sait, comme on sait qu'un cycliste, il fait plus vivre le commerce local qu'un automobiliste. C'est aussi des choses qu'on essaye de, des messages qu'on essaye de faire passer à la ville, mais aussi aux commerçants qui vont réclamer des places de parking devant leur commerce en disant oui, moi je veux que vous allez tuer mon commerce si vous supprimez les places de parking, les gens pourront plus s'arrêter pour venir prendre leur pain ou leur paquet de cigarettes. Mais ce qu'on essaye de leur faire comprendre, c'est que s'il y a une piste cyclable à la place de parking, ben, il y a des cyclistes qui vont se mettre à passer. Et les cyclistes, en fait, c'est des meilleurs clients que les automobilistes parce que peut-être qu'ils dépensent moins quotidienne parce qu'ils vont pas se charger, mais par contre ils vont venir tous les jours. Voilà, donc c'est des idées reçues comme quoi les parkings c'est bon pour le commerce, c'est bon pour tout le monde, et en fait finalement non. Mais ça les commerçants commencent à le comprendre.
Alors justement, c'est difficile de partager la rue avec les automobilistes. Vous avez cette impression-là qu'il y a une sorte de sentiment de puissance par rapport au vélo des automobiles ?
N'importe qui fait du vélo en ville se rend compte de ça. Je ne dis pas, bien sûr pas tous les automobilistes, mais c'est quand même courant de se faire griller la priorité, par exemple une intersection, parce qu'on est un cycliste et que du coup l'automobiliste il va considérer que c'est à nous de nous pousser pour le laisser passer. Ou
Moi de temps en temps il y a des automobilistes qui me dépassent et qui se rabattent tout de suite.
Oui, voilà, ouais.
Parce qu'il y a un feu, mais ils me dépassent quand même.
Voilà, alors qu'ils vont s'arrêter 10 mètres plus loin, voilà. Au feu, puis qu'en fait tu vas plus vite qu'eux, mais il faut quand même, faut qu'ils aillent vite, quoi. Ils ont une voiture, faut qu'ils aillent vite. Ouais.
Ça, c'est étonnant. Ça n'arrive pas qu'à moi, donc.
Ah non, ça arrive à tous les cyclistes. Ou les voitures qui se garent sur les pistes cyclables. On ne se rend pas compte, mais c'est hyper dangereux. En fait, moi, ça m'énerve vraiment parce que les automobilistes qui font ça, ils mettent notre vie en danger, vraiment. Là, il y a quelques semaines, hein, y a une cycliste qui est morte à Lourdes. Parce qu'elle était sur une piste... Je me semble qu'elle était sur une piste cyclable. Il y a un croisement, il y a un camion qui a coupé la piste. Et voilà, une nana de 22 ans... C'est hyper dangereux. Moi, je monte tous les jours la rue de Dole en vélo. Je suis en pleine montée, je suis en plein effort. Je suis coupée d'un coup parce que tous les jours, il y a des voitures qui sont garées sur la piste cyclable. Donc, je suis obligée de m'arrêter et de me déporter sur la rue où les voitures montent à toute valdingue. Et c'est super dangereux, quoi. Donc, il faut que les automobilistes, ils y pensent aussi. C'est dangereux, ce qu'ils font.
Le site, il est plutôt intéressant. On peut trouver plein d'aménagements. Alors, on n'a pas forcément les cartes, hein, j'ai vu.
Si, il y a des cartes.
Il y a les cartes
aussi.
Il faut
aller sur les aménagements. Carte de Besançon.
Ouais.
Et là, voilà, ça, c'est une carte de Besançon où on invite tous les cyclistes à noter les points noirs de la circulation en vélo. Par exemple, là, il pourrait y avoir un arceau vélo ou... Et ça intéresse la ville aussi, ils nous ont demandé s'ils pouvaient, ils s'en servent, hein. Parce que c'est vrai qu'ils ne peuvent pas non plus connaître tout. Enfin, on remonte aussi des informations aux collectivités, par exemple la CAGB est en train de refaire son schéma cyclable, son schéma d'itinéraire cyclable. Donc la CAGB c'est forcément des itinéraires entre, mettons, École Valentin et Pirée, voilà, c'est les communes autour. Et donc ils nous ont demandé si on pouvait demander à nos adhérents, ben, qu'est-ce qui intéresse en fait les cyclistes, en fait, quel aménagement, quels itinéraires sont très fréquentés. Du coup, on a fait un questionnaire qu'on a envoyé à tous nos adhérents Et on a reçu pas mal de réponses, on était contents et on l'a envoyé à la CHB qu'on dit bah, c'est super intéressant. On se rend compte qu'il y a des cyclistes qui passent par là, on n'y aurait pas pensé. Donc oui, peut-être qu'on va faire une voie verte ici. Ou, l'idée aussi, c'est de faire remonter les informations en fonction de la pratique des gens. Si vous avez quelque chose à dire sur les aménagements cyclables à Besançon, nous, ce qu'on conseille, c'est d'envoyer un courrier à la mairie en nous mettant, nous, en copie. Comme ça, nous, on est au courant des différentes demandes. Et comme ça, nous, on suit l'affaire. C'est ça qu'on conseille.
Ils vous envoient un courrier?
Ouais, oui, ils nous envoient un mail. Ils disent, j'ai envoyé un courrier à la mairie pour dire que, par exemple, j'en ai marre de passer tous les jours sur la rampe de Morapon et que la piste cyclable, elle s'arrête d'un coup. Je ne suis pas pour être contre qu'il n'y ait plus du tout de voitures. Les voitures, c'est pratique quand on a des petits-enfants, quand il pleut, quand on transporte des trucs. Moi, ça m'arrive d'utiliser une voiture. C'est juste que je voudrais qu'il y en ait moins de voitures, qu'on l'utilise vraiment que quand on ne peut pas faire autrement, et qu'on puisse faire du vélo sans avoir peur. En fait, c'est ça. Parce qu'il y a plein de gens qui voudraient faire du vélo, que j'en connais parmi mes amis avec qui je discute, qui disent ben non, moi j'ai peur, j'ose pas, j'ai peur de me faire renverser par une voiture, j'ose pas passer par là parce que les voitures vont trop vite, parce qu'il n'y a pas de piste cyclable. Et nous, on voudrait que la peur soit pas un frein à la pratique du vélo. Parce que c'est prouvé, hein, dans une ville, plus il y a de pistes cyclables, plus il y a de cyclistes. C'est pas une question de météo, ou par exemple à Marseille, il fait super beau, il n'y a pas de pistes cyclables, il n'y a pas de cyclistes. À Strasbourg, il fait moins beau, mais il y a plein de cyclistes, parce que les cyclistes sont les bienvenus, il y a des aménagements. Plus il y a de cyclistes, moins il y a d'accidents aussi. Proportionnellement au nombre de cyclistes. Plus il y a des cyclistes dans une ville, plus du coup, déjà plus on fait du vélo, plus on sait se comporter dans la circulation. Hein. Par exemple, souvent les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo, ils se retrouvent dans la circulation, ils se mettent dans un petit coin de la rue en se disant voilà, je vais me faire tout petit, et puis les voitures elles vont me doubler sans qu'on me remarque. Alors que c'est tout le contraire, s'il n'y a pas de piste cyclable et qu'on a peur, et ben, en fait il faut se montrer, c'est ça, il faut être visible. D'ailleurs, on a une nouvelle activité qui se développe à la VB, c'est qu'on accueille la vélo-école maintenant. Donc c'est deux personnes hein, qui ont passé le diplôme de moniteur de vélo, qui ont intégré l'association et qui apprennent aux gens à faire du vélo. Donc il y a différents publics, il y a des personnes adultes qui ne savent pas faire de vélo du tout, hein, qui ne tiennent pas en équilibre sur un vélo. Mais il y a aussi des personnes qui savent faire du vélo, mais qui ont peur de faire du vélo en ville, et qui aimeraient bien, voilà, ils vont faire des tours en ville, et ils leur expliquent comment se comporter au milieu des voitures. Et ça aussi, c'est important. Plus on peut avoir peur au début, mais voilà, après on s'habitue. Enfin, moi je fais du vélo tous les jours, je suis peut-être chanceuse, mais je ne suis jamais tombée, je n'ai jamais eu d'accident.
Moi, je suis tombée plusieurs fois. J'ai mis ma roue dans le rail du tram.
Ah oui, non, mais ça, c'est un grand classique. Le rail du tram, c'est hyper dangereux. Mais d'ailleurs, en parlant du partage de la rue, il y a aussi, quand ils font des aménagements, maintenant, ils prennent en compte les personnes en fauteuil roulant ou même les poussettes, voilà, les personnes à mobilité réduite. Du coup, les trottoirs sont moins hauts. Et ça fait des tout petits trottoirs qui, en fait, sont hyper dangereux pour les cyclistes parce que si on ne les prend pas bien en perpendiculaire aussi, ben, on peut glisser et tomber. Donc c'est encore un cas de partage de la voirie. Bah, après, c'est super hein, que les gens en fauteuil puissent se déplacer facilement, c'est super important. Mais voilà, c'est aussi un cas où du coup, ça n'arrange pas forcément les cyclistes. Le pont de la République, j'ai une copine qui est tombée, là c'est vraiment casse-gueule, le pont de la République. Le micro-trottoir. Ouais. Alors en plus, là, on cumule le micro-trottoir, les voies du tram et pas de piste cyclable.
Donc alors, la ville sans voiture, tu l'imagines comment?
Bah, beaucoup plus calme. Et beaucoup moins stressante, avec un air plus respirable et puis avec plus de place du coup. Les voitures prennent énormément de place. Quand on voit la place prise par les parkings, par les routes, c'est énorme en fait. Ouais, plus calme, plus apaisé et plus détendu. Ouais. Et on s'en rend compte. Récemment, je suis allée à Fribourg, visiter l'écoquartier de Fribourg, et il y a des endroits entiers piétons. Et ça change la vie. Il y a des enfants qui jouent dehors sans que les parents aient peur qu'ils se fassent écraser. Enfin, ça induit plein de choses, en fait, la voiture en ville. Ça change nos comportements, ça change nos habitudes. Et ouais, moi, je trouve que c'est chouette que les enfants puissent jouer dehors sans qu'on s'en soucie. On entend les oiseaux. Ça change vraiment la vie, vraiment.
On est un peu jaloux qu'ils arrivent avant nous, mais on les laisse passer dans les embouteillages quand les motards te font merci avec les pieds, merci avec les pieds. Ce ne sont pas des êtres humains, mais une espèce de martien terrien. Ils ne connaissent pas la langue des mains, Ils vont les voir foncer libres comme l'air, heureux comme des goélands. Ils ont l'air épanouis, un casque sur la tête et à leurs mains des gants. Ils vont tous sur leur moto, mais la seule chose qu'ils ne pourront pas, c'est dormir en roulant, sinon le drap s'envolera, tu comprends? Dans les embouteillages, tu penses au temps, autant qu'au temps, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées, passent entre les camions citernés, les 4L de pompiers. Les filles sont en voiture, contrairement aux motards qui le sont en moto, bien qu'il y ait des filles en moto, mais sous leur cuir, on ne les voit pas bien, on ne voit pas leurs seins. Surtout que sous un casque, on peut pas deviner si c'est un vieux hippie, un vieux skinhead ou une pure beauté. Si par hasard dans un embouteillage tu croises la femme de ta vie, mais assis à côté d'elle il y a déjà un petit mari barbu mais gentil. Remballe ton sourire de veau, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Remballe ton sourire de veau, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Alright. Dans les embouteillages, tu penses autant, autant qu'au temps où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles et à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernés, les 4L. Dans les embouteillages, tu penses autant, autant qu'au temps où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles et à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les 4L de pompiers, virgule. Quand les filles se maquillent dans les rétroviseurs, moi j'ai même pas peur qu'elles oublient de freiner les routiers du haut de leur cabine, les traitent de femmes au volant, mais en secret ils aimeraient bien les emmener. Amoureux des sirènes, les ambulanciers sont les marins des départementales. Salauds de séducteurs, ils ont une infirmière dans chaque hôpital. Ils collectionnent les filles, ils multiplient les aventures, et leur spécialité, c'est l'amour en voiture. Sais-tu qu'il y a des infirmiers qui soignent les blessés en leur mettant des disques et des cassettes, la musicothérapie au service de la fracture ouverte. Pour un lumbago, Nougaro ou alors Django, une jambe cassée, ACDC, et c'est soigné. Dans les embouteillages, tu penses autant, autant que dans, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les 4L. Dans les embouteillages, tu penses au dents, autant qu'au dents, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents.
Vous êtes bien sur Radio Campus 102.4 dans Actulutte, émission aujourd'hui sur le thème de la rue. On continue avec un son de Loïc, le terrain de jeu politique.
Il s'est dit ouvert à la discussion. Et du coup, la CGT, qui a récemment perdu sa place de premier syndicat dans le privé, pourrait bien se retrouver isolée sur une éventuelle contestation. Beaucoup de choses dépendront évidemment du résultat des élections législatives, mais il semble se dessiner que si En Marche n'obtient pas une majorité absolue, le président et son gouvernement pourront au pire constituer une majorité de coalition, avec le ralliement vraisemblable après coup de députés du centre droit et du centre gauche. Dès lors, Emmanuel Macron ne devrait pas rencontrer trop de difficultés à faire adopter cette réforme capitale pour lui et pour la suite du quinquennat.
Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ton beau petit saut là? Cette belle patte un peu aqueuse.
Un peu aqueuse. Ben, y a pas grand chose. Y a que des éléments naturels. Il y a de la farine et il y a de l'eau.
Tu peux nous la rappeler?
C'est très efficace, c'est tout simple. Il suffit de mettre de la farine dans une casserole, une marmite, un peu de l'eau chaude, et puis à feu doux, tu fais revenir ça avec un mixeur.
Ouais.
Et puis voilà, le tour est joué en 5 minutes.
C'est
extrêmement efficace. Et ça colle super bien, et ça colle aussi bien qu'une colle chimique avec plein de produits qu'on n'aime pas trop pour l'environnement. On va juste partir, on va remonter rue de Belfort. Tu sais, au café. Donc, on va passer par la rue des Jardins.
Pour chercher les affiches.
À gauche, ici, là.
À gauche.
Ouais, pour aller chercher des affiches au bar, au café, qui est un peu le QG là, de la France Insoumise pour ces élections présidentielles et législatives.
Allez, feu.
Tac. Regarde. Tac. On a quelques spots.
Donc là. Ouais.
Ça, c'est des bureaux de vote officiels. C'est souvent des écoles ou des gymnases ou voilà. Et c'est ici qu'il faut qu'on aille coller. Chaque candidat, tu sais, bah, comme d'hab, a son numéro attitré sur toute la circonscription. Et il faut coller que sur le numéro qui nous est alloué, donc qui est le numéro 7 pour cette campagne législative 7. Pour la France Insoumise.
C'est pas un chiffre magique, le 7?
C'est un chiffre magique, j'espère. Ouais. J'espère que c'est un chiffre magique en le 11 et 18 juin.
Allez, feu! Mardi, rôti de porc, légumes de saison, 12 euros.
Salut, bonjour. Bonjour.
Tout à l'heure. Ouais.
Ah, il y a les affiches de Jean-Luc Mélenchon partout.
Que tu
crois ? Pardon ?
T'es jamais venu ici ?
Non, je suis jamais venu ici.
Oh merde.
Ouais.
Je connaissais pas le coin.
Il en reste plus beaucoup.
Non, bah on va prendre ce qu'on a. Apparemment, ça arrive à l'arrivage demain.
Demain ou vendredi.
Et les gens qui viennent boire des cafés ou des canons, là, ils en pensent quoi de la petite décoration locale France Insoumise ?
Ça, 90% ça leur plaît, les autres ils viennent plus, ça me dérange pas. Bientôt.
Voilà, voilà. Tu prends la colle ?
Ah tu vois, il y a des années, il y a des campagnes qui sont passées par là, là.
Tu peux expliquer juste un peu le contexte alors là on recouvre une affiche front de gauche.
Ouais, enfin feu front de gauche. Parce que le front de gauche, il n'existe plus vraiment, en tout cas pas à Besançon, clairement pas.
Donc le logo du front de gauche. C'est anciennement en 2012 entre le Parti communiste et le Parti de Mélenchon.
Et 8 partis, 9 partis en tout il me semble.
Et plein d'autres en fait.
Voilà, qui composaient donc les forces un peu altermondialistes, anticapitalistes à la gauche du PS. Et qui avait une belle légitimité, qui avait réussi un beau truc quoi. Moi je trouvais en tout cas, je les ai soutenus, sans être encarté. Et aujourd'hui je suis pas plus encarté que ça, mais je me suis dit que la dynamique elle était quand même du côté de la France Insoumise. Et donc j'ai décidé de les soutenir là dernièrement.
Ouais.
Et sans savoir vraiment, sans connaître vraiment le terreau local bisontin qui est en fait un contexte hyper particulier où il y a un peu une guerre des... Une guerre des gauches altermondialistes. Et là, qui est bien représentée pour l'élection législative, puisque le Parti communiste refuse de laisser l'investiture seule aux candidats de la France insoumise, Claire Arnoux et Daniel Conversi, sur cette circonscription. Hein. Et voilà, et du coup, on se retrouve avec un schéma intéressant où le PC, le Parti communiste français, fait sa propre campagne et présente son propre candidat. Et donc on est en concurrence avec eux et ça se ressent jusque dans l'affichage qu'on est en train de faire actuellement.
Mais ce qui est intéressant, la subtilité, qu'il faut peut-être que tu expliques, c'est que du coup, il faut faire attention à son call parce qu'ils peuvent instrumentaliser nos affiches, c'est ça ?
Ils utilisent la photo de l'image, effectivement, le visuel et le succès de la tranche de Mélenchon qui est indéniable, hein, même si on peut critiquer le personnage, il fédère autour de lui hein, et puis il est connu tout simplement, quoi.
Ouais.
Voilà, et du coup, malheureusement, on se retrouve à coller sur eux, et c'est un peu con parce que moi, j'aurais bien aimé qu'on colle ensemble, et je pense qu'on aurait beaucoup moins collé, parce qu'ils sont très bons, les cocos, il n'y a pas à dire pour le collage. Voilà.
Allez, c'est reparti.
Voilà. Clairceau, on arrive sur Clairsoleil, en bas de Clairsoleil, on va prendre le pont, on va passer au-dessus de la voie ferrée.
Est-ce qu'on peut dire que tu connais ce quartier par cœur après deux campagnes de collage ?
Oui, je pense que je commence à connaître ces quartiers, qui sont riches d'ailleurs de diversité, de paysages, de façon d'être aménagé. C'est assez rigolo de parcourir la ville en tant que colleur. Et à vélo en plus, normalement. Là, on est en train de un peu blasphémer, hein, parce que normalement, ça se passe à vélo, tout ça. Et là... Ah, regarde !
Oh, Éric Alouzet !
Ah, ça, c'est une... Votre ça, c'est député très intéressant.
À 100%. Alors lui, ce qui est intéressant,
pas d'étiquette.
C'est qu'il n'a aucune étiquette.
Tout à fait, puisqu'il s'est fait retirer son investiture.
Par le PS ?
Et par les Verts.
Donc en fait,
qui ont considéré qu'en ayant appelé à voter Macron dès le premier tour, enfin c'est ce qu'il a fait, hein, ils ont retiré son investiture. Voilà. Mais ils n'ont pas présenté de candidat. Donc c'est assez original la circonscription numéro 2 du Doubs, puisque on n'a pas de candidat en marche. Il n'y a pas de candidat PS ni Verts. Il y a Éric Alauzet qui a un mix un peu de. Qui a aucune étiquette, qui se revendique de la majorité présidentielle et qui dit qu'il a le soutien des Verts et du PS alors qu'ils l'ont formellement retiré, mais voilà.
Mais en tout cas, c'est notre député à 100%, c'est marqué. Hein. Il faut lui faire confiance.
Il faut lui faire confiance, du coup.
Comme il présente bien.
Ouais, bon, il mérite quand même une petite affiche sur son visage.
Là c'est un peu intense hein.
Ici là ?
Ouais, ici il y a vraiment des panneaux d'affichage partout, c'est vraiment étonnant. Comment ça se décide d'ailleurs ça ? J'aimerais savoir. Il y a des quartiers où t'en as pas un, et t'as un quartier ici où t'en as 4 qui suivent les uns après les autres quoi.
C'est assez improbable effectivement.
Tous les 10 secondes, même pas.
Assez improbable, et on est en manque criant de panneaux affichage dans la boucle justement. Et on parle d'affichage collectif, donc ça ne veut pas dire que de l'affichage politique. Là, c'est vraiment de manière globale sur la question de l'affichage. On est, nous, dans le milieu associatif, souvent, on a souvent des difficultés avec ça, à tel point que la ville nous a déjà fait des reproches sur notre façon de coller, c'est-à-dire de manière un peu sauvage parfois.
Ouais.
Parce qu'on n'a pas le choix, on est obligé de coller sur des spots un peu originaux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup du tout. La boucle, c'est 3 ou 4 panneaux d'affichage, alors qu'il y a 15 000 habitants. Et je te laisse imaginer le nombre de rues et du coup le nombre d'espaces où les piétons, où les gens peuvent déambuler et voir du coup ces panneaux qui ont leur utilité, quoi.
Ouais.
Voilà. Et ça, c'est assez original, c'est assez problématique, à tel point que après un courrier de la ville à destination d'une dizaine d'associations, on a décidé avec d'autres assos de faire un courrier commun à la ville pour leur dire il est hors de question que vous nous mettiez la pression sur ce sujet alors que vous ne faites absolument rien. Contrairement à, je sais pas, des villes comme Grenoble, tu vois, qui ont carrément décidé de ne pas renouveler leur contrat d'affichage avec Deco ou des grandes boîtes, quoi. Et qui ont du coup dévolu maintenant ces panneaux pour de l'affichage culturel associatif.
Ouais.
Paf!
Puis c'est bon, c'est quand même la première rencontre que tu peux faire avec les événements, c'est quand même dans la rue. Et...
Bah souvent. Ouais. La plupart des concerts que tu peux voir ou des événements, que ce soit à caractère politique, revendicatif, militant ou juste festif ou conviviaux, et ben c'est dans la rue des fois, quoi. Enfin souvent, bah, c'est pas souvent, que des fois.
Il n'y a pas que Facebook, quoi.
Exactement. Ça a encore sa légitimité. Bah, mais bon, voilà, à Besançon, c'est pas facile.
Allez, on y reparti. Pourquoi c'est important pour toi de faire ça, en fait?
Je mets beaucoup ma vie en perspective avec mes déplacements. Moi, la question de la mobilité, j'en fais un enjeu central, c'est un de mes centres d'intérêt à travers mes activités pro et bénévoles et un loisir aussi. Et voilà, chaque citoyen bouge, chaque citoyen se déplace pour aller au boulot, pour aller faire ses courses, pour aller pour du loisir, pour de l'utilitaire, pour de l'urgence. Et on est donc tous amenés à évoluer dans l'espace public d'une manière ou d'une autre, à pied, en bagnole, à vélo, en bus, etc. Et à mon sens, une campagne, qu'elle soit politique ou juste pour de l'affichage culturel, etc. Ce n'est pas qu'Internet, ce n'est pas que la télé, ce n'est pas que la radio. Il y a aussi une composante qui est juste la vie, la vraie, et du coup, on a forcément, quand on se déplace, nos yeux, ils scrutent certaines choses dans la rue, quoi. Et donc, à un moment donné, je suis pas sûr que ce soit ça qui détermine le résultat d'une campagne, loin de là. Mm-hmm. Je pense pas, on connaît pas d'études qui valident le fait que l'affichage politique, ça change les choses, mais en tout cas, on montre qu'on est présent, et c'est ça que je trouve intéressant. Ouais. On montre qu'on est là, qu'il y a une dynamique, qu'il y a des gens qui se bougent pour porter nos idées sur le terrain, et c'est une façon juste de dire, n'oubliez pas qu'on justement ces idées-là, on essaye de les porter ici, dans vos rues, quoi, tout simplement.
La rue.
Pour gagner !
Vive la France !
Parce que c'est notre projet !
God bless America !
Vive la République !
Vive la France !
Vive la France !
Les urnes.
Et en fait, maintenant, on a arrêté les voitures et...
Les voitures crient avec les gens, donc c'est pas mal.
Voilà.
La rue. Et Jurne.
Au terme d'une longue campagne atypique, imprévisible et parfois tendue, les 47 millions d'électeurs français ont fait leur choix en ce dimanche 7 mai 2017.
Qui succédera à François Hollande? Qui sera à la tête de l'État pendant les 5 prochaines années? Réponse dans moins de 10 secondes.
Emmanuel Macron est élu président de la République française avec 65,5% des voix.
La rue ou les urnes? Pour résoudre cette équation complexe, je suis allée voir un copain, Jean-Noël, prof d'histoire au lycée. Dis-moi Jean-Noël, est-ce que la rue est plus efficace que les urnes?
Alors, moi, d'un point de vue personnel, je pense que la rue est très efficace, voire plus efficace que les urnes pour s'opposer. Et qu'elle l'est de plus en plus, en fait, on voit que les manifestations font reculer les gouvernements, etc., de plus en plus. Par contre, je pense que pour proposer, la rue est assez stérile, ne propose pas grand-chose parce qu'il lui manque certains outils institutionnels, comme par exemple des pétitions, notamment un droit de pétition qui pourrait permettre de proposer quelque chose et de soumettre ensuite une proposition qui serait validée par justement la population et par la rue. Or aujourd'hui ça n'existe pas, donc je pense qu'elle est assez stérile dans ce domaine-là.
Et tu penses que ces 10 dernières années, la rue a réussi à s'opposer aux réformes qui ont été mises en place en France par exemple ?
Ben, relativement, elle réussit pas mal à les atténuer en tout cas, ou en tout cas à les bloquer. Je pense à réforme contre Alain Juppé en 95, je pense aux réformes du CPE de Villepin, etc. Et pas mal. Alors c'est vrai que c'est un peu changé avec au moment de l'ère Sarkozy, mais bon, il y a quand même eu des blocages et ils n'ont pas pu aller aussi loin que ce qu'ils voulaient. Et je pense que ouais, ça marche plutôt pas mal, ça bloque pas mal, je pense. Les politiques craignent de plus en plus la rue et le désordre. Alors c'est plus une question d'image et de position, on les voit faire volte-face assez rapidement, voire plus rapidement qu'avant. Si on prend par exemple, je sais pas, si on prend des manifestations plus anciennes, comme par exemple mai 68, ça avait fonctionné au niveau des ouvriers, mais pas forcément au niveau sociétal, en tout cas dans l'immédiat. Et le pouvoir avait très fortement résisté avec une réaction derrière. Aujourd'hui, on a de plus en plus l'impression que le pouvoir s'adapte, essaie d'être plus souple, mais aussi essaie de contourner des fois justement les manifestations en promulguant des textes pendant les vacances, quand il y a d'autres sujets d'actualité, parce que justement, j'ai l'impression qu'ils craignent justement cette opposition dans la rue qui va les freiner, les gêner.
Et si je reviens à certains mouvements, par exemple, tu as dit qu'ils ne proposaient pas grand-chose. Si je prends par exemple le mouvement Occupy ou le mouvement des indignés, est-ce que pour toi ils proposaient vraiment rien ou c'était juste de la contestation ou il y avait autre chose ?
En fait, je suis un peu mal exprimé. Je ne voulais pas dire qu'ils proposaient rien. Je voulais dire qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de transformer les propositions. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de propositions, plein d'idées, généralement, pas mal de monde qui est d'accord. Mais finalement, il n'y a pas de transcription possible, en fait. On a arrêté sur tout ça. Il n'y a pas de moyen de le transcrire, si ce n'est par un immense mouvement de population, mais qui reste relativement utopique. Et justement, je pense que des moyens institutionnels, il y a de plus en plus de partis qui en proposent, notamment sur la gauche de l'échiquier politique. Et je pense que ça va gagner de plus en plus ces idées-là, parce que je pense que c'est un peu le moyen de refonder notre démocratie. Je pense que c'est un enjeu vital pour notre démocratie, sinon on risque de péricliter. C'est justement de proposer des moyens pour transformer ces idées qui jusqu'à présent restent finalement à l'état de débat momentané, puis qui après disparaissent et ne se transforment que rarement dans la réalité.
Donc une de tes solutions pour toi, ça serait par exemple des initiatives citoyennes à travers des pétitions?
Oui, je pense. Après, c'est vraiment personnel, mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait, de manière institutionnalisée, la possibilité de faire des pétitions qui soient vérifiables, qui soient vraiment sûres, où chaque citoyen aurait des codes, etc., pour se valider. Et quand on arrive à un certain nombre de signatures, soit qu'il y a un projet de loi qui soit proposé, soit carrément qu'il y a un référendum. Alors après, ce qui m'aide plus dans cette idée aussi, qui est pourtant à laquelle je suis plutôt favorable, c'est que ça peut entraîner des bonnes choses comme des très mauvaises choses. Par exemple, quand on voit tous les votes en Suisse, ce qu'ils appellent les votations pour les différents choix, des fois les choix politiques peuvent être assez surprenants et ça permet aussi des fois aux extrêmes de faire passer leurs idées. Mais j'ai l'impression que ça permet aussi une démocratie plus directe, ce qui manque un peu à notre démocratie actuelle.
Et finalement, les urnes, ça veut dire qu'on élit des représentants. Est-ce que nos gouvernements aujourd'hui arrivent à transformer la société selon toi ?
Je pense qu'il la transforme un petit peu, mais le problème des urnes, c'est qu'on a le choix. C'est un aspect qui est très démocratique, essentiel. Le problème, c'est que chaque fois, c'est un choix qui est limité. Et c'est là le problème des urnes. Est-ce que les gouvernements arrivent à transformer la société un petit peu ? C'est très lent, c'est toujours très lent. Là, il y a le nouveau gouvernement, le nouveau président qui est élu. Moi, j'espère qu'ils vont réussir à faire quelques réformes institutionnelles, notamment sur le non-cumul, etc. Parce que je pense que c'est important. Donc, je pense qu'ils peuvent essayer de le faire, mais le problème des urnes avec les représentants, c'est qu'on a tous les problèmes de lobbying, voire de corruption, de conflit d'intérêts, et ça c'est un frein. Et la possibilité, via de passer soit par des référendums, soit par des pétitions, etc., permettrait de contourner, je pense, ces freins.
Et dernière petite question, est-ce que tu pourrais me donner, en tant qu'historien, des exemples où la rue a été plus efficace que les urnes ?
Alors, la rue plus efficace que les urnes, il faut que je réfléchisse un petit peu sur... où il y a l'exemple classique du Front populaire, où sans la rue, le vote des urnes n'aurait pas abouti, hein, puisqu'on sait qu'au début, le Front populaire est largement bloqué par l'opposition du patronat, et que c'est les grèves, les manifestations qui vont débloquer. Après, si on prend de manière plus contemporaine, la rue plus efficace que les urnes, c'est compliqué. Il y a les manifestations dont j'ai déjà parlé, hein, puisqu'en 95, quand Juppé... peut faire ses réformes, hein. Il sort d'une victoire électorale avec Jacques Chirac, donc les urnes avaient parlé, et pourtant il se fait renverser 2 ans après, quoi. Donc on voit bien que la rue est très efficace, plus efficace peut-être que les urnes. Après, sur une confrontation sur la même idée, là comme ça je vois pas trop, je réfléchis, mais...
Et avant 1936, est-ce que la rue a été efficace ?
Alors, avant 1936, que la rue était efficace. Alors, sur des plus de détails, enfin, c'est pas vraiment face aux urnes, mais par exemple, sur la crise du 6 février 1934, la rue qui va s'opposer au coup d'État fasciste, là, on a une opposition dans la rue. Hein, c'est-à-dire que là, avec la tentative des monarchistes, des fascistes de prendre le pouvoir, de renverser la République, on a une confrontation entre deux rues, une rue d'extrême droite, une rue plutôt à gauche. Donc là, on peut dire que les urnes sont totalement dépassées pour une réalité dans la rue. Et après, évidemment, il y a tout l'épisode, si on monte beaucoup plus loin, sur la Révolution française, où là, comme il n'y avait pas d'accès aux urnes, la rue, les manifestations, on pense à la prise de la Bastille, etc., là, ont été très efficaces. Et puis, par contre, on a aussi un défaut, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la rue a pris le pas sur toute réforme politique, sur toutes les élections, avec notamment la République qu'on appelait bourgeoise avec les Girondins qui étaient au pouvoir, et là, qui a rendu quasiment ingouvernable la France, et qui a aussi amené, du coup, dans la réaction à ces manifestations de rue, notamment aux sans-culottes, l'arrivée de Napoléon. Donc là, la rue était beaucoup plus efficace et dépassait les urnes. Mais là, il faut dire aussi qu'on n'avait pas de culture démocratique à l'époque, donc ça mettait beaucoup de conflits, beaucoup d'enjeux. Enfin, voilà.
Merci.
Interprétation libre, espèce d'espace, la rue, Georges Perec. Travaux pratiques. Observer la rue, de temps en temps. Peut-être avec un souci un peu systématique. S'appliquer, prendre son temps. Noter le lieu. La plage Jouffroy, quartier Battant, Besançon. L'heure. 22h. La date, le 25 mai 2017. Le temps, une soirée estivale. Notez ce que l'on voit, ce qui se passe de notable. Sait-on voir ce qui est notable ? Y a-t-il quelque chose qui nous frappe ? Rien ne nous frappe. Nous ne savons pas voir. Il faut y aller plus doucement, presque bêtement. Se forcer à écrire ce qui n'a pas d'intérêt. Ce qui est le plus évident, le plus commun, le plus terne. La rue. Essayez de décrire la rue. De quoi c'est fait? À quoi ça sert? Les gens dans les rues, les voitures. Quel genre de voiture? Les immeubles. Ah, notez qu'ils sont plutôt confortables, plutôt cossus. Distinguez les immeubles d'habitation et les bâtiments officiels. Les magasins. Il y a une poste là. Des magasins de vêtements. Un bar, avec une terrasse bien remplie. Se demander où les gens du quartier vont faire leur marché. Les cafés. Combien y a-t-il de cafés? 1, 2, 3 là-bas, un peu plus loin, Marula. 4 en face. La Trattoria Abbiatica. Rive gauche. Il y a plus de bars de l'autre côté, en fait. Pourquoi avoir choisi ce lieu-là? Parce qu'on le connaît. Parce qu'il est vivant. Parce qu'on y est bien. Les autres magasins. Un antiquaire. Des banques. Les magasins de musique. Ah, une grande église. L'église de la Madeleine. Se forcer à épuiser le sujet, même si ça a l'air grotesque, ou futile, ou stupide. On n'a encore rien regardé. On n'a fait que repérer ce que l'on avait depuis longtemps repéré. S'obliger à voir plus platement. Déceler un rythme. Le passage des vélos, des voitures, du tramway parfois, des scooters, des mobilettes, des passants, des chiens. Lire ce qui est écrit dans la rue. Un tag, BDC.
Ouais, mais les chiens, ils catalysent pas. Ah oui,
centre médico-social, hôtel Jouffroy, synagogue, WC public gratuit. Sauf tram. Sauf vélo. Sophie boutique. Pont battant. Déchiffrer un morceau de ville. En déduire des évidences. Décrire le nombre des opérations auxquelles se livre un cycliste pour venir boire une bière. Arriver avec son vélo. Garer son vélo contre un parc à vélo. Mettre son cadenas. Mettre la clé dans la poche. Prendre son portefeuille. Choisir une table. Regarder les gens qui sont à côté. Aider le serveur. Commander une bière, une mariée de saucisses par exemple. Et regarder les gens. Ah. Un tram qui passe. Il passe tout doucement ici. Tout doucement parce que... il paraît que c'est très dangereux les trams. Il paraît que la mise en circulation d'un tram, c'est... environ 7 morts dans une ville. Tout doucement. Aussi doucement que les passants. Les gens dans les rues, d'où qu'ils viennent, où qu'ils vont, qui qu'ils sont. Gens pressés, même vendredi soir. Gens lents, gens flânant, gens discutant, gens pédalant, gens circulant, gens titubant, gens marchant. Du temps passe, boire son demi, attendre. Notez que les arbres n'ont pas repoussé, qu'avait Picard. En tout cas, pas tout près du pont, ils sont plus loin. Taillés. Au garde à vous. Oh, un taxi. Continuez, jusqu'à ce que le lieu devienne improbable. Jusqu'à ressentir, pendant un très bref instant, l'impression d'être dans une ville étrangère, ou mieux encore. Jusqu'à ne plus comprendre ce qui se passe, ou ce qui ne se passe pas. Que le lieu tout entier devienne étranger, que l'on ne sache même plus que ça s'appelle une ville, une rue, des immeubles, des trottoirs. Faire pleuvoir des pluies diluviennes, tout casser, faire pousser de l'herbe, remplacer les gens par des vaches, voir apparaître au croisement du pont battant et du quai Vieille Picard, King Kong ou alors une bête bizarre. Ou bien encore, s'efforcer de représenter, avec le plus de précision possible, l'enchevêtrement des égouts. La prolifération invisible et souterraine des conduits, électricité, gaz, lignes téléphoniques, conduites d'eau, fibre optique, sans laquelle nulle vie ne serait possible à la surface. En dessous, juste en dessous, ressusciter l'Éocène, le calcaire à meulière, les marnes et les caillasses, le gypse, le calcaire lacustre, le calcaire grossier, les sables et les lignites, l'argile plastique, la craie. Une rue, circulation interdite, sauf ayant droit, client, hôtel, livraison, 6h à 11h, cycle. La rue battant. Un petit message. Notre société a-t-elle besoin d'exploser pour évoluer? Comme un élan. Tiens, c'est des copains.
Voilà, on termine notre émission ActuLutte en bas de la rue Battant. Et on vous invite à la poursuivre demain, à peine plus loin, sur la place Mairula, car ça passera une bouffe de rue, justement. Le resto trottoir, tous les derniers dimanches du mois, à midi et demi. C'est fini pour nous, pour le poil à gratter aujourd'hui, et on vous retrouve dans un mois et quelques, comme d'habitude. Et une petite dernière info avant de se quitter, le week-end prochain, il y aura un festival qui s'appellera Les Ateliers en fête, le 3-4 juin. Et ça se passera à la Double Écluse, où il y aura toutes sortes d'ateliers assez divers, sur deux journées. Voilà. Et tout est à prix libre. On vous souhaite un très bon week-end dans les rues ensoleillées de Besançon.